Alors, on va parler du retour exactement dans une semaine des enfants à l'école. Il me semble qu'on n'est pas prêt. Oups. Yep. C'est mon réalisateur. Je t'ai dit, c'est pas bon du pot, hein, John. Il fume aucun pot. Tout est parti pour lui. Mais c'est parce que je le torture un petit peu en nombre. Là, j'ai peut-être trop torturé. Il a pogné les nerfs. Je vais faire attention. On reçoit pour parler justement de ce retour-là dans les écoles, Marois Risky, qui est députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole en matière d'éducation. Bonjour, Mme Risky.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, vous?
Ben, très bien, oui. Dans les circonstances, on essaie d'aller le mieux possible puis de se remonter le moral. On va faire un exercice, Mme Risky, si vous êtes d'accord. Admettons, c'est moi qui est au gouvernement. C'est moi qui est responsable de l'éducation. Je suis le ministre Bigra, juste pour faire un exercice maintenant. Alors là, vous allez me demander des choses, puis moi, je vais vous dire oui, mais on lutte contre la COVID, on n'a plus d'argent, il n'y a plus d'économie. Où est-ce que vous voulez que je trouve l'argent? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Puis je vais essayer de me défendre comme ministre Bigra, voir.
Ben, je vous dirais que si vous avez écouté le sketch du bye-bye, on imprime de l'argent fédéral, on en donne à qui en veut, et il y a eu 432 millions de dollars qui a été transféré au Québec pour le réseau de l'éducation. De ce 432 millions de dollars, qu'avez-vous fait pour améliorer la qualité de l'air dans les écoles, s'assurer d'avoir les bons masques pour tout le monde dans les écoles et surtout s'adjoindre davantage de services de personnes, par exemple, pour le tutorat aux élèves, parce qu'il y a aussi du retard d'apprentissage, parce que non seulement une crise sanitaire, mais je vous dirais qu'il y a même une crise d'apprentissage dans nos écoles.
Nos écoles servent de courroie pour quelque chose. C'est l'éducation, on le comprend, c'est primordial. Mais là, on travaille pas juste dans ce qui est primordial, on travaille dans ce qui est urgent. L'éducation est aussi... les écoles sont aussi un système qui nous servent de garderie en ce moment parce que les parents ne s'en sortent pas.
Mm-hmm.
Alors donc, à un moment donné, il va falloir retourner les enfants à l'école.
Bien, moi, j'y crois qu'on doit retourner les enfants à l'école. Ça, j'y crois mordicus. Puis je voudrais que quand je vois même aujourd'hui la petite fillette de Laval qui est décédée, c'en est une de trop. Les écoles, c'est non seulement c'est sûr que c'est pour l'apprentissage, mais c'est d'abord et avant tout pour moi, personnellement, un rempart face à ce qu'on peut vivre, qui est très, 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 très triste, puis c'est horrible même. Alors, moi, je préfère avoir les enfants à l'école, tous les enfants à l'école, mais de façon sécuritaire. Et je vous dis, monsieur le ministre Bigra, c'est faisable si on s'y met.
OK, on va changer ça de bord. J'aime pas ça. Je vais être le député Bigra. Vous allez être la ministre Marois Risky. Alors, Madame la ministre, vous feriez, c'est bien beau ce que vous dites, là, mais vous feriez ça de quelle façon?
Je vous dirais que préalablement, moi, j'ai été très sceptique lorsqu'on nous a expliqué en long et en large pendant plusieurs mois que c'était pas utile de porter le masque. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je mettrais adjoint les services d'une personne que pour gérer les écoles. Parce que gérer les CHSLD, les hôpitaux, là, c'est très, très prenant. Moi, il me semble que j'ai besoin d'une autre personne juste pour mes écoles. Puis je vous dis, je serais chercher la meilleure, selon moi, la docteure Joanie. Pourquoi? Parce qu'elle était en zone de guerre. Elle a géré les bonheurs sur place. Elle est bonne. Puis je l'aime parce qu'elle explique bien les choses de façon concise.
Elle est capable de travailler en état de crise aussi.
Oui, puis j'ai besoin de quelqu'un là, qui va devenir ma générale de guerre pour m'assurer que mes écoles restent ouvertes, puis qui va prendre là, au sérieux ce qu'on appelle le principe de précaution, puis qui, elle, sa vie, là, l'OMS, Harvard, Oxford, Yale, puis j'en passe d'autres universités, de grandes universités qui disent « Hey, la transmission par aérosol, c'est pas là quelque chose qui n'existe pas, c'est le facteur principal de transmission. » Moi, j'ai besoin d'une médecin qui y croit, d'une épidémiologiste qui y croit, puis qui va se dire « J'applique le principe de précaution et j'équipe toutes mes écoles du Québec de purificateurs d'air. » Ça coûte 80 millions de dollars. Donc, dans la somme de 432 millions transférés par le fédéral, je vais y couper 80 millions environ que pour équiper mes écoles, pour améliorer la qualité de l'air. Ça, c'est la première chose que moi, je ferais à titre de ministre.
Okay, par la suite... Mon exercice devient mêlé un peu, mais pourquoi votre collègue ministre aussi, Robert, refuse de le faire?
Parce que j'ai l'impression que dans la cellule de crise, il n'est pas dans la cellule de crise. C'est vraiment là au bureau du premier ministre, puis que lui, c'est mis un petit peu ce que j'appelle être sur le neutre, attendre les directives de la santé publique, attendre après le docteur Arruda. Mais moi, j'ai l'impression que le docteur Arruda est vraiment occupé avec la vraie grosse crise, celle qui emporte malheureusement des vies, celle qui a été par exemple, dans les CHSLD et dans les hôpitaux. Et l'école, c'est un petit peu là en arrière parce que les enfants ne tombent pas malades avec la source principale de COVID-19 autant que nos aînés. Sauf que moi, je le vois maintenant à Londres, dans les hôpitaux, on voit que c'est beaucoup plus d'enfants avec la variante. Alors, j'ai pas l'impression que lui, il a pris les devants, qu'il a fait preuve de leadership, qu'il a pas talonné le ministre de la Santé, mais qu'il a pas talonné, en fait, la santé publique. C'est moi, au mois d'août, rappelez-vous, là, j'étais d'ailleurs
sur le monde. La santé publique provinciale, surtout, parce que la santé publique fédérale reconnaît la transmission par aérosol.
Absolument. En fait, je vous dirais que la quasi-totalité des scientifiques le reconnaît, sauf chez nous, au Québec, ce qui, moi, me rend vraiment, des fois, un peu frustrée. Je vais vous l'admettre très humblement. Mais une fois que j'ai dit ça, sauf que M. Roberge lui-même se saisisse puis se dit, écoutez, c'est pas normal que j'ai plein d'experts à l'international ainsi qu'au Canada. Et aujourd'hui, c'est 300 scientifiques canadiens et québécois qui signent une lettre ouverte pour dire, reconnaissez la transmission par voie aérienne et les aérosols. Alors, j'ai l'impression que M. Roberge attend, puis si on fait juste attendre que la magie des fêtes va opérer, puis qu'on n'a rien changé, bien, je m'excuse, ça ne marchera pas, la magie des fêtes, puis que le nombre de cas ne va pas être réduit. Si on ramène les enfants à l'école le 11 janvier sans rien changer, c'est sûr, M. Bigrin, qu'il va y avoir une hausse de cas encore dans les écoles, ainsi que par la suite communautaire.
Les enfants, même si pour l'instant... J'insiste sur pour l'instant, semble moins malade, parce que là, ça change. Là. Les gens sont de plus en plus jeunes, ceux qui sont hospitalisés, donc ça a l'air à vraiment s'étendre sur le côté tranche d'âge. Mais même s'ils sont moins malades, ils transmettent beaucoup. Ils sont des vecteurs de transmission, ces enfants-là, parce qu'ils se croisent. On essaie de respecter les cellules familiales, mais quand on envoie 30-35 enfants dans une classe en même temps puis qui courent partout dans les corridors, des enfants, ça fait ça, c'est normal. Le professeur essaie de courir après pour dire non, lui, tu peux pas aller proche de lui, lui, tu peux aller, non, tu peux pas. Mais il y arrive pas avec la quantité d'enfants. Donc, il y a quelque part, l'école mélange toutes les cellules familiales à ce moment-là au travers des enfants.
Absolument. Puis je vous dirais que même si les enfants, parce que moi, je suis allée, puis je retourne le 11 janvier, si jamais l'école ouvre dans ma classe, je vous dirais que même quand les enfants respectent les règles, la vérité, c'est que même si vous êtes assis, le virus reste en suspension dans les airs, dans les milieux clos. C'est ça, une école. C'est tous des milieux clos, oui, avec plein de personnes qui respirent le même air. Alors, c'est bien le fun de dire, on va ouvrir les fenêtres. En plein hiver, quand même, vous ouvrez votre fête de façon très, très fréquente, là, il n'y a pas un grand changement d'air. Et c'est pour ça que j'insiste sur les purificateurs d'air et d'un vrai plan là, pour protéger nos enfants.
Il y a une question d'architecture aussi. Des fois, il y a des, on peut faire un courant d'air par la porte en ouvrant les fenêtres, mais il y a des classes qui ne sont pas conçues comme ça. Il y a juste un côté où ça s'ouvre, donc il n'y aura pas de courant d'air, même si on ouvre les fenêtres. Alors, on ne peut pas se fier là-dessus. Parce qu'en ce moment, là, ce qu'on essaie de faire en premier, c'est de ralentir la transmission, parce que là, ça s'accélère en fou.
Donc, mais je vais vous donner un exemple, oui, si vous permettez. Il y a eu les cas à Saint-Constant. Il y a eu un cas, puis après ça, deux cas. Mais la santé publique n'a pas déployé immédiatement, comme nous, on l'avait demandé, des cliniques de dépistage mobile qui arrivent un peu comme un SWAT team qui arrive et qui dépiste tout le monde là, pour s'assurer d'isoler immédiatement ceux qui sont porteurs du COVID-19. Une semaine plus tard, c'est pas 2-3 cas, c'était 78 élèves infectés et environ une vingtaine d'enseignants dans l'école. On a dû fermer l'école complètement le 3 décembre. Alors, depuis le 3 décembre, aucun des élèves qui est retourné à l'école. Et c'est quand même beaucoup. Là. Moi, je ne comprends pas là, pourquoi qu'on n'utilise pas les tests rapides. Rappelons-nous là, que le fédéral nous a envoyé un peu plus d'un million de tests rapides et que le gouvernement du Québec a décidé de ne pas les utiliser. Alors, moi, là, pendant des semaines, je ne savais pas quoi faire avec leurs tests rapides. Je disais, écoute, si vous ne voulez pas les utiliser, là, envoyez pour les écoles. On est capable de les utiliser dans les écoles. C'est même approprié dans les écoles parce que rapidement, on peut isoler les élèves qui sont porteurs du virus ou un membre du personnel qui est porteur du virus et s'assurer par la suite de ne pas fermer une école au complet.
Ou plusieurs. Maintenant, quand on est au pouvoir, quand un gouvernement est au pouvoir, je sais un peu comment ça fonctionne. Il y a des ministres qui, des fois même, j'engueule un peu, des fois à tort, je dois le reconnaître, parce que je sais très bien comment ça marche. C'est le Conseil du Trésor, c'est le premier ministre qui décide. Ensuite, c'est le Conseil du Trésor qui va donner tant à tel ministère, tant à l'autre. Puis si t'es pas content, t'auras pas une scène de plus. C'est comme ça, puis arrange-toi. Alors, le pouvoir est assez limité comme ministre, des fois, ce qu'on peut faire dans un département. Mais là, il semble avoir un deuxième Conseil du Trésor qui est notre pauvre docteur Arruda. J'aimerais pas ça être dans ses souliers ces temps-ci. Je me demande comment il
dort. Moi non plus.
Ça fait longtemps qu'il est là-dessus puis qu'il dort pas. Puis, je veux dire, il l'a déjà dit, les morts, il les voit dans sa tête, lui, le matin, quand il se lève. Alors, mais le docteur Arruda est une espèce de deuxième conseil du Trésor. C'est-à-dire que dans le cas de la COVID, c'est beaucoup, selon son avis, qu'on va pouvoir, par son avis, qu'on va pouvoir réclamer des budgets supplémentaires pour mettre des mesures en place, comme des maudits ventilateurs. C'est certain que ce problème-là existait bien avant la COVID, donc on ne peut pas rénover tous les systèmes de ventilation des écoles, on n'a pas le temps. Mais mettre des ventilateurs, des purificateurs d'air, je ne sais pas pourquoi c'est pas fait. Y a-t-il un scientifique qui dit que ça ne marche pas, cette affaire-là?
Mais à part Dr Arruda, Dr Massé, qui ont dit que pour eux, c'est un facteur de transmission minime, la très grande majorité des spécialistes ont dit que non, c'est le facteur principal de transmission. C'est sûr que moi, à ce statut, je vous dirais que ça vaut la peine d'investir dans les purificateurs d'air. Vous avez raison de dire qu'on ne peut pas rénover un parc école complet. Mais moi, ce que je vous propose, puis ce qui est proposé par les experts, les purificateurs d'air, là, on parle pour une classe de 1 000 $. Et si on fait une évaluation complète du parc école du Québec, on parle d'un investissement de 80-90 millions $. Il faut se rappeler qu'à chaque année, on a le montant du problème de grippe, l'influenza. Alors ça, au fond, là, c'est pas un investissement qui va seulement pour la COVID. Là. On va l'avoir à chaque année notre saison de la grippe. On va être capable de réduire aussi la transmission de d'autres virus par la suite. Et on sait d'entrée de jeu qu'aujourd'hui, on parle du coronavirus, mais plusieurs experts nous disent que dans quelques années, ça sera un autre coronavirus qui aura muté, qui va aussi encore une fois nous infecter. Là.
On va prendre une petite pause et puis de retour, si vous voulez bien, je vous garde encore un petit peu avec moi. Je vais vouloir vous parler de pistes que vous avez déjà mentionnées, par exemple une clinique de dépistage mobile et puis des situations d'échec pour les enfants et puis pour les adolescents. C'est extrêmement décourageant pour l'image de soi d'un jeune qui est en train de se construire, d'avoir l'impression qu'il ne vaut rien parce qu'il ne réussit pas, alors que ce n'est pas de sa faute qu'il est dans une pandémie. On en reparle tout de suite après la pause. Merci. Alors, je suis toujours avec Marois Risky, députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole en matière d'éducation. Je dis toujours « entre autres » parce que c'est plus facile. En fait, Mme Risky, je pourrais vous demander la liste de ce que vous faites pas, ça irait plus vite, je pense. Pour le reste, donc, on parlait rapidement, parce que là, je commence à avoir moins de temps, je trouve ça intéressant, puis dans ce temps-là, je déborde toujours un petit peu. Vous aviez parlé d'une clinique de dépistage mobile.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant dans toutes les écoles?
Bien, moi, j'en parle depuis le mois d'août, parce que j'ai pris l'idée de l'Ontario. Eux ont créé une équipe dédiée de la santé, donc infirmières et hygiénistes. 500 d'entre eux sont déployés uniquement pour les écoles. Dès qu'il y a un cas, on dirige une équipe, vous dépistez l'ensemble des élèves. Ceux qui sont symptomatiques ou asymptomatiques, ça ne change à rien, on dépiste tout le monde pour s'assurer de savoir qui est porteur du virus et surtout pour avoir un véritable portrait de la situation. Parce que nous, on dit « Ah, mais les élèves ne sont pas si infectés ». On ne sait pas vraiment, M. Béra, là, parce qu'en réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment testé tous les élèves, même lorsqu'il y a des cas de déclarés dans une école. Alors, moi,
ils ne sont pas si infectés. Tu n'es pas si infecté. Tu es infecté ou tu ne l'es pas. Tu n'es pas un peu enceinte. Tu l'es ou tu ne l'es pas.
Absolument.
C'est la même chose. Tu n'es pas si infecté. Tu es infecté ou tu ne l'es pas. C'est tout. Il faut le savoir. Je suis très d'accord avec votre idée. On va juste savoir qu'est-ce qu'on pense. Je prends toujours une coupe d'appel. Je veux entendre Marie-Josée, qui est éducatrice en service de garde. Bonjour, Marie-Josée.
Oui, bonjour, M. Bigrand, Madame la députée. Moi, je suis éducatrice en service de garde depuis au moins 10 ans. Mm-hmm. Et puis, je suis pleinement d'accord avec la ventilation. Voyez-vous, il y a une mauvaise ventilation dans les écoles. Le portatif, moi, je suis d'accord avec ça. La réouverture, je suis pas d'accord parce que je crois pas qu'on est organisé pour réouvrir le 11 janvier. C'est des choses qui auraient dû être pensées et faites même à partir du mois d'août à notre entrée. Ils savaient très bien que le vaccin arriverait pas tout de suite. Il aurait fallu organiser ça davantage. Je crois qu'il y a un manque. Nous, on a eu 5 cas avant Noël. 2 semaines avant Noël, il y a 4 classes qui ont fermé. C'est quand même assez drôle parce que avant il y avait rien. Là, les fenêtres ont commencé à se fermer comme de raison. Les enfants, le froid et tout.
Oui.
Et puis, voyez-vous, on a eu 4 classes complètement fermées. Moi, j'ai 7 bulles après l'école. J'ai 5 bulles dans ma classe après l'école. Est-ce qu'une distanciation, demander à des enfants de se tenir à distance l'un de l'autre, là, monsieur Bigra, de plus en plus, c'est impossible. Au début, ça va.
Mais c'est impossible, puis c'est cruel. Parce qu'à un moment donné, ils y pensent, ils font leurs efforts, mais des enfants, c'est des enfants. Leur instinct les porte les uns vers les autres. C'est comme ça qu'on se forme. Merci beaucoup, Marie-Josée. Madame Risky, je dois discuter avec ma collègue Nathalie Normandeau, anciennement de votre parti. J'allais dire une autre génération, mais ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de moment où on est arrivé. Mais merci beaucoup, Madame Risky. J'espère qu'on va se reparler. Et puis, dans une autre vie, peut-être je retournerai vous voir boxer, massacrer un de mes amis. Ça me fera plaisir.
Ben non, je ne m'affecte personne, mais bonne émission, Nathalie Normandeau. Et j'espère aussi que vous allez parler de l'autre crise, la crise d'apprentissage. On n'a plus eu la chance d'en aborder. Mais ça prend vraiment un sommaire d'éducation pour avoir des outils pour aider les parents, parce qu'en ce moment, les jeunes sont démotivés au secondaire. On parle de 30 à 50 % d'échecs. Ça nous prend vraiment ici une réunion d'urgence. Là, pour
fait des gros dégâts. Je comprends. Merci infiniment, Mme Risky. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Marois Risky, députée libérale de Saint-Laurent, porte-parole en matière d'éducation. Nathalie Normandeau, qui commence tout de suite après les nouvelles, dans un peu plus d'une heure. Nathalie, comment tu vas?
Ça va bien, toi, Aidan?
Très, très bien.
Génial. Moi. Bon lundi. Là, on revient à la programmation régulière aujourd'hui, midi à 15 heures.
Toi?
Oui,
j'ai
moi.
Juste 2 heures. Moi, la vie est belle pour moi, là.
Toi, t'es déjà en programmation régulière depuis un bout, hein, Dan? Écoute, aujourd'hui, à l'émission, plusieurs choses. J'entendais Marois Risky dire il y a une crise d'apprentissage dans le secteur de l'éducation. Elle a tout à fait raison. On a parlé à des parents la semaine dernière sur les défis liés à l'apprentissage en ligne. Il y a des enfants qui s'en sortent bien, mais il y en a d'autres pour qui c'est, franchement, c'est très, très, très difficile.
Et des
très
fois, difficile. C'est pas juste les enfants, c'est les parents.
Absolument.
Moi, je suis pas équipé pour aider mon fils. Oui. Enfin, maintenant, il a 25 ans, pas moins, là, mais quand il était jeune, j'étais pas équipé pour l'aider.
Puis ajoute à ça, Dan, des parents qui sont eux-mêmes en télétravail, obligés d'accompagner leurs enfants qui, eux, sont en enseignement à distance. Écoute, ça devient
moi,
presque
le niveau
impossible.
D'anxiété qui monte.
Oui, c'est terrible. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, tu t'en doutes bien, avec l'actualité, avec ce qui se passe dans l'actualité. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on prolonge le confinement après le 11 janvier ou pas? Être ou ne pas être, hein? C'est la question. Il y a plusieurs experts qui montent aux barricades pour dire au gouvernement, pour suggérer fortement au gouvernement de prolonger le confinement, un 10 à 14 jours additionnels compte tenu de tout ce qui se passe. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, je regarde ça.
Je ne remettrai pas les enfants ensemble tant qu'ils n'ont pas des systèmes de purificateurs d'air portatifs.
Oui.
En attendant, ça se livre, ça.
Voilà,
en
absolument.
En 2 semaines, on peut y arriver.
Oui, c'est ça. Puis ça aussi, c'est un autre grand sujet aujourd'hui, l'importance de bien ventiler les endroits fermés. Mais moi, je suis toujours fascinée par le fait qu'en France, par exemple, la ventilation fait partie des gestes barrières de base, alors qu'au Québec, Dan, as-tu déjà entendu parler le gouvernement, je ne sais pas, le ministre de la Santé ou Dr. Arruda.
Non, il résiste même.
Oui, voilà,
il résiste.
C'est ça qui est
fascinant. Le ministre Roberge résiste.
Voilà.
Mais
moi, je ne résisterai pas. Je serai là à midi, mon cher.
Oui, mais nous autres, on est en radio, c'est plus facile. Nous autres, on peut chercher des pistes, mais en fait...
Oui, c'est ça.
Fait que ce soit une bonne émission,
merci,
Nathalie.
Merci, Dan.
Merci beaucoup. Et puis moi, ben là, c'est les nouvelles, mais moi, je vous retrouve tout de suite après. À tout à l'heure.